Réplique, l'humanité d'Isaac Bashevis-Singer avec Florence Noiville et Marc Crépon. Quand je lis la famille Muscat, Chocha, ou le certificat d'Isaac Bashevis-Singer, je suis éperdu de reconnaissance. La Varsovie juive de l'entre-deux-guerres, où se déroulent ses romans, est le monde dont je viens. Singer me dote ainsi, moi qui n'ai pas eu de grands-parents, d'une avant-mémoire. Il soustrait mon origine au néant de l'extermination et à celui de l'oubli. Mais il y a d'autres raisons que biographiques de s'intéresser à Singer. Celui-ci n'est pas un écrivain communautaire, comme en témoigne le cahier de Lerne que Florence Noiville a dirigé, et dans ce cahier, l'article remarquable du philosophe Marc Crépon. Ces raisons, j'aimerais qu'exemples à l'appui, nous les développions ici. Pourquoi ? Quand il y a tant de livres et que la vie est si courte, prendre le temps de lire Singer. Qu'est-ce qui fait de lui un auteur important et peut-être même incontournable, Florence Noiville?
Alors pourquoi en effet? C'est la question qu'on me posait absolument tout le temps quand j'effectuais mon enquête, notamment à New York. On me disait pourquoi Singer et pourquoi vous? Sous-entendu, pourquoi vous qui n'êtes pas juive? Alors, j'avoue que ça suscitait chez moi un certain agacement, parce que je leur disais, mais au fond, si vous me disiez que demain vous alliez consacrer une biographie ou l'équivalent d'un cahier de Lerne, je ne sais pas moi, à Bernanos ou à Mauriac, ça ne me ferait pas particulièrement bondir. Et puis, chemin faisant, je me suis aperçue qu'il mettait quand même le doigt sur quelque chose de tout à fait particulier et qui fait la singularité d'Isaac Bashevis-Singer, qui fait aussi que je l'aime, c'est que cet écrivain a beau être ancré on ne peut plus dans le monde juif, dans le Yiddishland, il est, comme vous l'avez dit, absolument universel. Et il avait d'ailleurs une formule, pour résumer ça, une très jolie formule, il disait la chose la plus bizarre, c'est que plus un être est unique, plus il ressemble aux autres. Alors, il y a dans le cahier de Lerne un document inédit qui est assez joli, qu'on a exhumé du Harry Ransom Humanities Research Center, où se trouvent les archives Singer aux États-Unis, qui s'appelle « Les 10 raisons pour lesquelles j'admire Henry Miller ». Et il se trouve que ces 10 raisons, je pourrais tout à fait les reprendre à mon compte en remplaçant Miller par Singer, et ça marcherait tout à fait. On a le temps de les énumérer?
Oui, bien sûr.
Alors, Singer était un, là il dit Miller, était un parfait égotiste, c'est-à-dire qu'il s'efforçait d'être heureux lui-même, jamais de rendre les autres malheureux. Raison 2, il se fichait des critiques, il ne les lisait jamais. Ça, vous allez me dire, pour une critique littéraire, ça, c'est paradoxal, mais c'est un autre sujet. Raison 3, il n'a jamais reconnu Freud, Adler, Jung. À ses yeux, l'école de psychologie n'existait pas. Alors ça, on y reviendra sans doute, mais ça veut dire que Singer est hors des modes. Raison 4, il n'a jamais voulu résoudre le moindre problème sociologique. Il se satisfaisait de ce monde pourri. Cinquième raison, il n'a jamais cherché de nouvelles formes d'écriture ou de nouveaux ressorts littéraires. Il écrivait comme il parlait, simplement, clairement, sans aucune affectation stylistique. 6. Il n'a jamais fait le moindre effort pour racheter l'humanité. 7. Il s'est tenu à distance des hommes politiques, quels qu'ils soient. 8. Il n'a jamais plaidé pour quoi que ce soit, pas même pour son propre style de vie. 9. Il ne se plaignait jamais, ni dans la vie, ni dans ses écrits. Et enfin, 10. Il n'a jamais aspiré aux honneurs. Le déshonneur lui suffisait largement.
Oui, alors c'est intéressant de voir aussi que Henry Miller avait une admiration très grande,
passion, oui,
pour Singer, qu'il a manifesté à plusieurs reprises. Et Singer était soucieux d'inscrire ses romans dans le contexte de la Weltliteratur, de la littérature mondiale, puisque, disait-il, il a plus appris chez Gogol que chez Scholem-Alekhem.
Oui. Il disait, Gogol a eu plus influence sur moi que Scholem-Alekhem, comme vous le dites, et en lisant ses nouvelles, je me suis demandé comment il était possible qu'un homme ayant vécu 100 ans avant moi ait pu me voler autant d'histoires.
Marc Crépon.
D'abord, la première chose, c'est que c'est un merveilleux conteur. C'est-à-dire que les histoires de Singer sont des histoires par lesquelles on se laisse porter. Il a un talent que peu d'auteurs ont à ce point de faire vivre ces personnages, de faire apparaître, surgir un monde au détour des pages. Mais c'est pas seulement faire apparaître et surgir un monde et n'importe quel monde, puisque c'est un peu ce que suggérait, ce que disait même votre ouverture, c'est un monde disparu. C'est un monde disparu, et donc lorsqu'on se laisse porter par les histoires de Singer, c'est quelque chose que l'on sait en les lisant. Et donc là où d'autres peuvent avoir indéfiniment théorisé le devoir de mémoire, les romans de Singer sont des romans qui mettent en pratique la responsabilité et la responsabilité du devoir de mémoire. Et c'est une responsabilité qu'il met en pratique de façon, à mon avis, assez unique. C'est-à-dire qu'il ne parle pas des victimes, des morts. Il ne parle pas de l'extermination des Juifs d'Europe. Il fait revivre le monde que cette extermination a fait cesser d'être. C'est comme s'il faisait un saut par-dessus la catastrophe, par-dessus la Shoah, pour faire revivre. Et il y a, moi aussi je vais citer une page, parce qu'on a tous nos pages favorites de Singer, et je voudrais citer un passage, une page à la fin de Shoah qui le dit très bien. « J'essayais de graver dans ma mémoire chaque ruelle, chaque maison, chaque magasin, chaque visage. Je me disais que c'était sans doute ainsi qu'un condamné à l'échafaud regarderait le monde. Je prenais congé de chaque colporteur, de chaque portier, de chaque marchand ambulant, même des chevaux, des droschkis, dont les grands yeux à la pupille noire semblaient exprimer un mélange d'angoisse et d'acceptation, comme s'ils savaient qu'ils en étaient à leur dernier voyage. » C'est comme si, dans le fond, tous les récits de Singer avaient voulu photographier ce monde avant qu'il disparaisse. Comme si parfois, on a l'impression que c'est l'image en tout cas qui me vient très souvent à l'esprit, que les personnages étaient restés figés dans le temps, que Singer arrive et qu'il les réanime. Voilà, que tout à coup il redonne un souffle de vie à ce monde dont on sait bien, chaque fois qu'on lit une page de Singer, qu'en réalité il a disparu.
Oui, il a cette phrase que vous citez, Florence Noisine, ce que Homère éprouvait à propos de Troie, je l'éprouvais à propos de Varsovie. Voilà. Il est un peu en effet le Homère de Varsovie est une sorte de Michelet aussi, puisqu'il ranime et donc il opère une sorte de résurrection. Et la littérature apparaît dans son œuvre comme la cité des vivants et des morts. Il refait, il ressuscite les âges, pour employer encore une expression de Michelet, les âges ensevelis.
Si vous permettez une troisième raison, autre celle, parce que j'en avais encore une troisième, c'est que je trouve, ça peut être très subjectif, mais que les personnages de Singer en général sont animés d'un incroyable souffle de liberté. C'est-à-dire que ce que Singer retrouve dans ce monde-là, c'est un très grand sens que lui me semble incarner, c'est en tout cas ce qu'on découvre en lisant la biographie de Florence Noisine, un très grand sens de liberté que lui semble incarner et porter au plus haut point.
Oui, je voulais juste dire aussi que s'ils sont à ce point vivants, j'irais presque d'ailleurs plus loin que Marc répond, je dirais, non seulement ils les ressuscitent, mais peut-être qu'ils nous montrent qu'ils ne sont jamais morts, qu'ils vivent en nous d'une certaine façon, comme si une espèce de fil souterrain un peu invisible se propageait de génération en génération. Et s'ils sont à ce point vivants, c'est aussi parce qu'ils ne les idéalisent jamais. Contrairement par exemple à un Joseph Roth pour qui le shtetl était quelque chose d'extraordinairement stylisé, idéalisé. Lui, il nous montre ben voilà, des prostituées, des voleurs, des escrocs, des gens d'absolument toutes conditions, sans nécessairement de scrupules et avec tous les travers humains qu'on connaît et dans lesquels on se reconnaît. C'est pour ça qu'il nous parle. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas toujours été aimé d'ailleurs des Juifs qui étaient ses contemporains. C'est-à-dire qu'on lui a beaucoup reproché de montrer ce monde-là avec ses noirceurs et ses travers.
Mais c'est très vrai et c'est justement une chose très frappante. Il n'y a jamais de jugement moral sur les personnages dans les romans de Singer. Il n'y a jamais de jugement moral et en même temps, c'est des romans qui sont quand même traversés d'une vraie et d'une grande portée morale. Et cette grande portée morale, c'est le souffle d'humanité qui les traverse.
Alors, il faut en venir tout de suite donc aux polémiques qui ont entouré l'œuvre de Singer, jusqu'au prix Nobel inclus. Dans certains milieu yiddishophone, ce prix Nobel a été vécu comme une catastrophe. C'est ce qu'a dit par exemple Chaim Grade, un écrivain yiddish, sans doute jaloux du succès, de la notoriété internationale de Singer, mais même large, vous le dites, en France, a très mal accueilli ce qui aurait dû apparaître comme une bonne nouvelle. Alors, il faudrait s'interroger là-dessus, parce que moi, j'ai été surpris par l'ampleur de cette querelle. Et en même temps, en lisant notamment Ennemi, qui, à la différence de la famille Moscat, se déroule entre survivants et en Amérique, c'est-à-dire après-guerre, eh bien, on voit que Singer déroge à une sorte de règle implicite, la règle de la tragédie, en quelque sorte. Dans l'épopée, le héros doit être héros et seulement héros. Dans la tragédie, la victime doit être victime et seulement victime. Et la liberté de ces personnages, c'est que précisément, ils sont martyrs et autre chose. Ils ont survécu miraculeusement à la guerre, à la catastrophe, et ils sont en proie à des querelles amoureuses incessantes. C'est un peu un vaudeville parmi les spectres ennemis. C'est Phédo chez les survivants, par exemple. Donc le héros s'appelle Hermann Broder. Il est partagé entre deux femmes. Il y a Wigda, une servante polonaise, un peu simple d'esprit, personnage qui traverse l'œuvre de Singer. C'est Chocha aussi.
Donc, qui l'a sauvé.
Qui l'a sauvé. Et donc, il l'épouse, il vit avec elle. Et Masha, sa maîtresse. C'est déjà extraordinairement difficile pour lui, ce tiraillement. Et tout d'un coup, Tamara, la femme qu'il croyait morte, réapparaît à New York. Et c'est un événement extraordinaire. Mais pour lui, c'est terrible. Et il le dit. Il voit cela à la fois comme un miracle et comme une catastrophe. Son bouffon métaphysique lui joue des tours. Et alors, ça c'est tout à fait extraordinaire, je m'arrêterai là. Il va voir Tamara, il a rendez-vous avec elle, elle s'est pomponnée pour l'occasion. Et voici la réflexion d'Hermann Broder. En la voyant, il ne put s'empêcher de penser à un pain rassis que l'on a mis au four pour lui rendre un peu de sa première fraîcheur. Donc c'est quand même absolument terrible. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avant-guerre, il ne cessait de se disputer. Donc, d'une certaine manière, il était libre d'elle. Et là, il a ce troisième fil à la patte qui va continuer à l'accabler.
Oui, elle revient un peu comme un dibouk au fond, parce qu'elle est, voilà. elle est sauvée du camp de concentration, alors qu'en effet, il la croyait morte. Et alors, ces trois femmes, elles sont très symptomatiques de l'œuvre de Singer, notamment des romans. Il y a toujours comme ça une espèce de triangle amoureux entre trois femmes qui sont les sommets du triangle. Et lui, le pauvre Singer, alors qu'il prend qui s'incarne différemment en Hermann Broder ou en Green, dans Ombre sur l'Hudson, qui est aussi un merveilleux roman, ou dans tous les romans. Absolument.
Dans la famille Moscat.
Absolument.
Et c'est toujours un peu un
personnage.
C'est
toujours la même matrice,
et
c'est toujours un personnage un peu ballotté, plus, comment dirais-je, agi par les choses, qui n'agit lui-même sur elle. Et à ce point de vue-là, et aussi au point de vue que vous notiez fort bien à l'instant, qui est à dire cette espèce de complexité psychologique, d'intrication très compliquée du bien et du mal dans chacun des personnages. À ce point de vue là il est, à mon sens, très moderne, ce Singer là il va beaucoup plus loin que le Singer conteur du Yiddishland, le gentil conteur qu'on évoquait tout à l'heure.
Il y a par exemple aussi cet échange: je ne savais pas que tu étais vivante. Réponse de Tamara: c'est une chose que tu n'as jamais su. Et il y a aussi cette phrase: quand il songeait aux tourments que Tamara lui avait fait subir au temps de leur vie commune, les années qu'il avait passées dans le grenier de Lipsk, un grenier où il s'était caché, c'était la guerre, lui était apparu comme une trêve. Donc tout cela, en effet, bouscule une sorte d'imagerie obligatoire de la Shoah. Le devoir de mémoire, justement, nous fait en quelque sorte obligation de nous incliner au risque de réduire ce qu'était l'existence des victimes et celle des rescapés.
Marc Répond. Oui, c'est la différence entre le devoir de mémoire et la responsabilité de la mémoire. Et donc, tous ces personnages que Singer réanime, qu'il fait revivre, eh bien, il les fait revivre avec leurs contradictions, sans porter de jugement moral sur eux, dans toute leur diversité. Et c'est ce geste qui reproduit toute la complexité d'un monde, sans la réduire à une imagerie quelconque. Et il me semble que l'une des choses très très, très singulières dans cette œuvre, c'est qu'à la fois d'abord elle est écrite, donc comme on va certainement en parler d'ici un moment, en langue yiddish. Donc à la limite, il y a un geste initial de la part de Singer qui est peut-être le plus communautaire qui soit. Il choisit de garder sa langue. Il s'agit de se concentrer, de concentrer tous ces personnages et toutes ces histoires dans un microcosme, puisque celui de la rue Krochmalna à Varsovie. Et en même temps, il ne cesse de produire des gestes pour se dégager de toute forme d'enfermement communautaire. Ça sera certainement, c'est peut-être le sens aussi de la traduction en anglais de ces œuvres. Et c'est à la fois un ancrage communautaire et de cet ancrage-là, trouver des voies de dégagement pour donner à son œuvre une portée universelle. Mmh. Et donc c'est ça sans doute la source du malentendu et la source de l'hostilité qu'il a rencontrée, alors, dont vous parliez tout à l'heure.
Encore un mot sur ça. Vous voulez dire quelque chose?
J'ai juste un tout petit ajout, puisqu'on était au chapitre des femmes. On le présente souvent comme un grand Don Juan ou womanizer, comme disent les Américains. En réalité, c'est un petit peu différent dans ce triangle des trois femmes, ou même plus, qui le poursuit depuis longtemps, puisqu'à Varsovie, il passait d'une chambre de bonne à une autre, il avait autant de chambres de bonne que de maîtresses simultanément. Il reste quand même très attaché à chacune. C'est-à-dire, c'est pas la figure du Don Juan classique. C'est une espèce de séducteur, alors paradoxal, bizarrement, parce qu'il était très laid. En réalité, il était petit, il était décollé, chauve, bref. Mais qui aime profondément les femmes. Voilà, l'homme qui aimait les femmes, c'est lui, c'est Singer, à tel point que il essaye de leur rester fidèle, de ne pas leur causer le moindre chagrin. Et un jour, au Grand Hôtel de Stockholm, le jour où précisément il y a la grande conférence de presse du Nobel, on cherche partout, les journalistes sont là, s'inquiètent, pourquoi n'est-il pas là, il est en retard. Et on finit par trouver Singer dans les escaliers de l'hôtel, en grande conversation avec une femme de ménage qui lui explique ses déboires amoureux. Et ça le passionne, vraiment, beaucoup plus que les honneurs et les journalistes. Et on peut penser que là, il prend des note mentale pour un de ses prochains romans. Je crois qu'il aime très profondément la psyché féminine, et ses romans sont une espèce de forage extrêmement profond et minutieux dans le psychisme féminin.
Et vous avez raison, c'est plutôt, si l'on en croit ses romans et même son autobiographie, l'homme des amours simultané que l'homme des conquêtes successives.
Absolument.
Oui. C'est vrai, parfois, quand on lit tous ces portraits de femmes, on a presque l'impression d'un regard de cinéaste. C'est-à-dire, comme il y a des grands cinéastes qui ont su incroyablement filmer les femmes, on a l'impression que c'est aussi ce que Singer fait magistralement dans ses romans. Et tous les portraits de femmes sont toujours saisissants, et ils n'ont pas beaucoup d'équivalent. Peut-être le seul qui fait des portraits comme ça, c'est peut-être aussi Cohen.
Et alors, il y a aussi un autre élément scandaleux dans sa vie et dans son œuvre, une sorte d'hostilité à la paternité. Ces héros refusent d'avoir des enfants, ne prennent pas de responsabilité quand ils en ont. Voici un dernier échange d'ennemis, mais on peut trouver la même chose pour Asa Eshel dans la famille Moscat. C'est encore Tamara qui fait des reproches à Hermann Broder. Puisque les petits-enfants de mon père, qui sont morts, ceux-là, ses enfants à lui, mais qui ne l'intéressaient pas du tout, n'étaient pas assez bons pour toi, puisqu'ils te faisaient honte, comme s'ils avaient été des croûtes galeuses sur ton beau crâne, pourquoi n'as-tu pas fait d'enfant à Jadwiga? Et lui refuse toujours, d'ailleurs, d'avoir un enfant avec celle-là, même si à un moment donné, elle tombe enceinte. Mais un mot quand même sur le scandale, c'est-à-dire que on l'a accusé justement de faire de la pornographie. On l'a accusé de faire de la littérature juive pour les gentilles, d'entériner les stéréotypes juifs les plus éculés, et ça m'a beaucoup surpris parce que je croyais que tout ça avait commencé avec Philip Roth. Or, je retrouve chez Singer quelque chose de tout à fait du même ordre. Quand Philip Roth publie Goodbye Columbus, levée de bouclier, et cette levée du bouclier d'ailleurs a inspiré son roman, le premier de la série des Zuckerman, L'écrivain des ombres. Et à un moment donné, le héros reçoit un questionnaire d'un dirigeant de la communauté, et l'une des questions c'est: est-ce que tu ne crois pas que dans ton œuvre il y a de quoi réchauffer le cœur de Goebbels et de Julius Streicher? Donc c'est atterrement, surprise, horreur, mais j'ai constaté que au fond Singer avait déjà subi ce genre d'accusations qui nous paraissent aujourd'hui complètement délirantes.
Mais vous vous souvenez du film récent qui est passé sur Arte, sur Philip Roth, le film d'Olivia Manera, il n'y a pas longtemps. La première personne que cite Roth, c'est Singer.
Ah oui ?
Donc, oui, tout à fait. Donc il en est l'héritier plus qu'indirect, quasiment un défi spirituel.
Votre article, Marc Crépan, s'intitule, je crois... Une éthique de la protestation.
Un profond sentiment de protestation.
Oui,
c'est une citation de Singer, c'est lui qui parle de
oui,
son sentiment de protestation.
Oui, et il est vrai, je l'ai constaté en préparant cette émission, que ce mot de protestation parcourt son œuvre, que c'est vraiment une donnée essentielle, une Stimmung de Singer, une Stimmung à la fois d'ailleurs philosophique et romanesque, parce qu'il a lu les philosophes, il se réclame de Schopenhauer notamment. Et enfin, je voudrais que peut-être vous développiez autour de
ça. Oui, c'est une triple, il me semble que c'est une triple protestation. C'est d'abord une protestation contre l'histoire, c'est-à-dire contre l'effacement de ce monde qu'il fait revivre. Donc toute son œuvre est animée de cette volonté de protester contre l'oubli d'un monde, celui qui a été détruit par l'Holocauste des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est un autre sentiment de protestation qui traverse tous ces rangs, me semble-t-il. C'est une protestation contre les rigueurs de la loi, les rigueurs de la morale. Et tous ces personnages inventent toujours leur singularité propre en trouvant des voies de dégagement par rapport aux rigueurs de la loi et aux rigueurs de la morale. Troisième forme de protestation, c'est une protestation contre tout ce qui enfermerait la littérature et l'écriture dans des canons obligatoires, dans une recherche stylistique obligatoire. Tout ce qui statufie la littérature et statufie l'écrivain et font disparaître la nécessité pour la littérature d'être d'abord un divertissement, de raconter des histoires, de faire revivre des mondes. Donc c'est ces trois dimensions que je trouve à la protestation. Protestation contre l'effacement d'un monde, protestation des personnages eux-mêmes contre les rigueurs de la loi, contre le jugement moral, pour faire valoir autre chose, qui est justement cette humanité incroyable qu'on trouve dans ces personnages, et puis protestation contre une certaine idée de la littérature et de l'écrivain.
Il me semble aussi, Florence Maville, que vous insistez sur la protestation métaphysique de Singer. Il y a une protestation contre Dieu, un dialogue intime et constant avec Dieu, et vous citez cette phrase tout à fait extraordinaire: si je pouvais, je serais piqué de grève à la porte du Tout-Puissant avec une grande pancarte sur laquelle serait écrit injuste envers la vie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que il trouve que Dieu fait mal son boulot, en gros.
Voilà.
Et que si lui, Dieu, s'estime obligé de d'être méchant avec ses créatures, de les torturer, de les soumettre aux pires affres, eh ben c'est son affaire, mais que lui, Singer, il va pas cautionner ça. Donc vous voyez, c'est aussi l'idée. Alors quand Marc Crépan parle de cette extraordinaire quête de liberté de Singer et de ses personnages, et de cette espèce de vent de liberté qu'on sent et qu'on aime tant à la lecture de Singer, c'est aussi l'idée d'être tout le temps dedans, dehors, un pied ici, un pied là, un éternel outsider, comme il se définit. Et c'est vrai qu'il est toujours entre deux. Alors, il est dans la religion sans y être vraiment. Il est entre la Pologne, l'ancien monde ou le monde d'hier, comme disait Stefan Zweig, et puis la modernité américaine. Il est entre deux, voire trois femmes, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il est entre le yiddish et l'anglais, c'est ce qu'on évoquera tout à l'heure. Il est entre la raison et le surnaturel, entre la rationalité et le magique. Il est tout le temps relativement insaisissable, une sorte de trait d'union, mais le trait d'union entre deux choses inconciliables.
Alors, restons-en quand même un instant à cette protestation métaphysique, parce qu'il a cette idée qu'il développe notamment dans son autobiographie, Un jeune homme à la recherche de l'amour, que Dieu a voulu la cruauté, la nature, et c'est une espèce d'incessant carnage. Tuer ou mourir, telle est la loi de la nature. Il a construit le monde de telle façon que le sang devait couler, que des enfants devaient mourir de faim, que des bêtes devaient s'entretuer. D'où cette idée d'une éthique protestataire. C'est justement parce que Dieu veut que les hommes se tuent les uns les autres et massacrent des animaux innocents que l'homme doit aider l'homme et les animaux, démontrant ainsi qu'il n'approuve pas la manière dont Dieu mène le monde. Autrement dit, oui, il s'agit de contrarier Dieu. Et cela m'amène quand même à un des thèmes essentiels de l'œuvre de Singer, ce scandale de la souffrance, mais la souffrance animale à l'égal de la souffrance humaine. C'est une obsession qui parcourt toute son œuvre. Et j'ai ici Le Pénitent, un de ses derniers romans, un homme qui fait retour à la tradition, et nous verrons un peu ce que ça signifie. La serveuse s'approcha et je commandais mon petit déjeuner. Voilà la séance, une séquence, tout ce qu'il y a de plus banal. Je regardais à la table voisine quelqu'un qui venait à bout de son assiette d'œufs au jambon. Depuis longtemps, j'en étais arrivé à la conclusion que le traitement infligé par l'homme aux créatures de Dieu est une parfaite dérision de toute espèce d'idéal et de tout ce qu'il était convenu d'appeler humanisme. Pour que cet individu trop bien nourri dévore son jambon, une créature vivante avait été élevée, traînée à la mort, torturée, poignardée, ébouillantée. Et ce type ne pensait pas un instant que ce porc était fait de la même substance que lui et qu'il avait dû payer de sa souffrance et de sa mort le fait qu'on puisse le savourer. J'ai pensé plus d'une fois que lorsqu'il s'agit d'animaux, chaque homme est un nazi. Il me semble que cette phrase va trop loin, mais c'est une thématique essentielle de Singer.
Oui, Singer est très souvent invoqué et utilisé par les défenseurs de la cause animale, y compris les plus radicaux, et notamment cette comparaison entre les abattoirs de Chicago et les camps d'extermination. Mais ce qu'on peut dire sur cette protestation, c'est, je crois, que la protestation de Singer, c'est une protestation contre toute la douleur et toute la tristesse du monde, et que cette cruauté à l'encontre des animaux, cette souffrance infligée aux animaux, ça fait partie pour Singer intégralement de cette douleur et de cette tristesse du monde. Donc c'est aussi porté par le regard critique que Singer porte sur toutes les catégories philosophiques par lesquelles et dans lesquelles on peut se laisser piéger, par exemple celle d'humanisme. Alors parlons d'humanisme. Si l'humanisme doit être conséquent, alors l'humanisme conséquent doit intégrer la responsabilité de la souffrance infligée aux animaux et de la cruauté envers les animaux. Un humanisme qui ne prendrait pas en considération et en cause cette souffrance et cette cruauté est un humanisme inconséquent. Donc pourquoi ? Parce que cette cruauté et cette souffrance font partie de la douleur du monde.
Oui, et il a aussi cette phrase, est-ce pour la santé que vous ne mangez pas de viande ? Et il répond, oui, pour la santé des poulets. Mais en même temps, on pourrait dire que, alors que tant d'âmes sensibles sont révoltées par le spectacle de la souffrance animale et s'accommodent malgré tout de ce qu'elles ne voient pas, Singer voit ce qui a cessé d'être visible et fait surgir la souffrance animale d'une assiette ou d'un étal de boucherie. Il y a à un moment donné, à la fin du certificat, le héros, qui est un double de lui-même, passe devant la vitrine d'un boucher, il y a une carcasse de viande, et il y a une adresse, il fait un discours à la vache qui a été cette carcasse de viande, et il lui restitue même un prénom.
C'est ça, il dit, quand je mâchouille ma saucisse, enfin pas lui parce qu'il était végétarien, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'une vache l'a payé de sa vie. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Vous avez mis le doigt tout à l'heure sur ce monde de cruauté, de souffrance qu'il dénonce avec véhémence. Mais il y a aussi, dans le même temps, de façon absolument concomitante, une espèce d'émerveillement chez Singer, d'émerveillement devant la nature, devant le corps des femmes, encore une fois, devant la beauté de la vie. Et la beauté de la vie, c'est aussi l'idée que il y a du vivant, il y a du non-vivant. Et dans le vivant, mais on fait pas tellement de distinction entre les espèces. La preuve, c'est que la mort, au fond, pour lui, n'est pas autre chose qu'une espèce de recombination des molécules, des atomes qui se recombinent pour donner d'autres êtres vivants. Alors, il y a du vivant dans les plantes, il y a du vivant dans les animaux, et il y a un peu de nous, puisque les morts, d'une certaine façon, leurs atomes se retrouvent partout dans l'univers qui nous entoure. Donc, on n'a pas le droit de... Voilà, il y a une idée comme ça, qu'on touche pas à ça, c'est absolument merveilleux et sacré. Lui était très... On n'a pas dit qu'il était très nourri de la pensée de Spinoza aussi.
Oui, c'est vrai. Spinoza et Schopenhauer sont les deux philosophes auxquels il se réfère constamment. Mais un mot encore sur la protestation, parce que ce mot, étant donné sa charge politique, peut induire en erreur... Il proteste aussi contre toute forme d'optimisme. L'optimisme historique lui est odieux. Une citation encore d'un jeune homme à la recherche de l'amour. « J'avais décidé pour ma part de ne servir que deux idoles, la littérature et l'amour, mais presque tous mes collègues au club des écrivains, nous sommes dans les années 30, se vouaient invariablement au service du troisième, qui s'appelait l'amélioration du sort des humains dans le monde. » L'obsession de guérir, dit-il ailleurs. Et cette obsession, il ne l'a jamais eue. Il a été guéri de ce souci de guérir, précisément par un pessimisme historique qui fait qu'il n'a versé dans aucune des grandes idéologies du XXe siècle.
Oui, tout à fait. On ne trouve pas de grandes considérations politiques, de grands développements politiques, ni dans ses romans, ni d'écrits de cet ordre. Donc, il y a certainement une méfiance à l'encontre de toute forme d'enfermement de cet ordre-là, une méfiance à l'encontre encore une fois, des grands concepts, des grandes théories, des grandes idéologies. C'est pas du tout un écrivain qui se place sur ce terrain-là. Et en même temps, ce que je voudrais, c'est que sa réponse aux grandes questions politiques, elle est quand même là, et c'est la littérature.
Oui, c'est la littérature, oui.
Et c'est la littérature. Et donc, dans le fond, il y a une vocation de l'écriture, qui consiste à dire que s'il y a une responsabilité à assumer de ce point de vue-là, alors elle ne sera assumé que dans ce geste qu'il reproduit pendant des décennies, qui est celui de raconter des histoires.
Je voudrais aussi en venir à ce va-et-vient dont vous avez parlé, Florence Noyville, de Singer, qui est ici et ailleurs, qui est une sorte de trait d'union, et notamment dans son rapport à la tradition. Libération de ces personnages, vous l'avez dit, Marc Crépon, et vous citez, Florence Noyville, cette très belle phrase de Saint John Perse, drôle de voisinage, oui, partir, ce vers de Saint John Perse, partir, parole de vivant. Partir, mais il y a aussi le pénitent. Donc une sorte de constante nostalgie du retour, d'admiration pour ce monde du mysticisme et de la discipline. Ce monde dont il vient, par exemple dans Ennemi, le héros aperçoit des vieillards à barbe blanche plongés dans l'étude du Talmud. Les visages des vieillards portaient l'empreinte d'une douleur obstinée aussi ancienne que les livres sur lesquels ils se penchaient. Leurs yeux exprimaient la profondeur du savoir et l'acuité de l'intelligence. Et puis il y a aussi cette anxiété morale constante chez Singer. Pour peu qu'un juif s'écarte du Shulchan Aruch, donc l'ensemble des prescriptions, ne fût-ce que de la distance d'un pas, il se retrouve spirituellement dans la sphère de toutes les iniquités, le fascisme, le bolchevisme, l'adultère, le meurtre, l'ivrognerie. Cette inquiétude ne le quitte pas. Qu'advient-il de nous, les juifs modernes,
Marc Crépon ? Il y a une chose très intéressante, c'est que, en même temps, Singer a cette phrase qui consiste à dire « un être moralement neutre est un monstre ». Donc, ces personnages sont à la fois, et il ne conçoit pas non plus de personnages qui ne seraient pas, il le dit lui-même, traversés ou travaillés par ces grandes questions morales et par ces grandes questions. Donc elles sont effectivement présentes chez ces personnages. Elles ne se traduisent pas par des grandes digressions. C'est pas un romancier qui fait digresser ces personnages. Elles se traduisent, et c'est ça que je trouve formidable, c'est très très visible dans Le tribunal de mon père, par exemple, par des gestes de soins, de secours, d'attention. C'est-à-dire que la morale, c'est toujours une morale en acte et une morale qui se manifeste pas dans les intentions, mais dans les gestes de bonté, les attentions, tous ces actes qui soulagent la vie. Lorsque, évidemment, dans le tribunal de mon père, le rabbin, le père de Singer et la Rebetzé sont portés par la loi, ils connaissent la loi, ils l'appliquent, mais en même temps, lorsque les personnages viennent les consulter, ça n'est pas à la loi qu'ils sont rappelés. C'est pas ça qui leur est apporté. Ce qui leur est apporté, c'est une parole de réconfort, c'est un secours, c'est un soutien. Et donc c'est ça la il y a une sorte de respect de la loi, mais de respect de la loi qui se manifeste toujours dans ce qu'elle devrait signifier, toujours pouvoir se traduire, qui sont encore une fois voilà ces gestes de bonté, de secours, de soutien, d'attention, de responsabilité.
Ces gestes auxquels il y accordait une importance telle qu'il se référait toujours à la Bible en disant et regardez dans la Bible on nous dit ce que font les gens, jamais ce qu'ils pensent. C'est comme ça qu'il faut écrire. C'est de cette façon extrêmement factuelle et apparemment simple. Et le miracle de Singer, c'est que sous cette façon directe, factuelle et simple, il y a des couches et des couches de d'interrogations et de doutes métaphysiques.
Oui, voilà. La métaphysique est omniprésente.
Omniprésente.
Et cette phrase extraordinaire, nous nous enfuyons, je crois que c'est dans Chocha, mais le mont Sinaï nous poursuit, toujours les juifs modernes. Cette fuite et cette poursuite nous ont rendus à la fois malades et fous. Et aussi cette autre phrase, dans son dialogue incessant avec Dieu, l'âme existe, c'est Dieu qui n'existe pas. L'âme existe, c'est Dieu qui n'existe pas. Mais venons-en maintenant.
Mais voilà, je pourrais dire que donc vous avez raison. La protestation morale, la protestation métaphysique, elle est omniprésente. Mais elle ne s'exprime jamais comme telle. Elle ne s'annonce jamais comme telle. Simplement, lorsqu'on prend du recul par rapport à ces récits, à ces nouvelles, effectivement, on découvre en Singer un grand moraliste. Voilà. Un grand moraliste, mais un moraliste qui ne se dévoile jamais et qui ne se décrit jamais explicitement comme tel.
Alors, moraliste, j'aurais quelques mots à dire à propos justement de sa biographie et de certains traits qui apparaissent de Singer, mais un instant, arrêtons-nous sur la question de la langue. Singer a écrit toute son œuvre en yiddish et il a donné des raisons très nobles. Vous le citez, je n'ai aucune raison de cesser d'écrire dans cette langue parce que Hitler a tué une grande quantité de ses locuteurs, ce serait compléter son travail. Admirable profession de foi.
Et admirable protestation, voilà la protestation de toutes les protestations.
Voilà, exactement, admirable protestation. Il s'obstine. Et puis...
Enfin, il s'obstine, il est fidèle.
Il est fidèle, voilà. il s'obstine aussi. Il vit aux États-Unis, il ne choisit pas d'écrire en anglais. En revanche, bien sûr, ses œuvres sont traduites. Il veille à la traduction. Mm-hmm. Il y a eu d'abord le premier épisode où c'est Bello qui a traduit Gimbel le Naïf. Mm-hmm. Traduction qui était peut-être plus une adaptation. Traduction qui demandait à Singer un peu de gratitude et c'était pas le sentiment dominant chez lui. Donc, en fait, après, il a repris en main les traductions. Il a créé un petit atelier, vous le dites, une industrie, Florence Moville. Et il a demandé que son œuvre soit traduite dans toutes les autres langues de l'anglais. Il l'a exigé. Donc là, je voudrais en savoir davantage, comprendre ce qui l'a motivé.
Alors d'abord, je voudrais revenir sur le yiddish. En effet, cette fidélité est assez admirable. Il écrit en yiddish, d'une part parce que c'est sa langue maternelle, c'est la langue de ses personnages, mais aussi parce que le yiddish, il l'explique très bien, ça, c'est une langue bénie pour un écrivain. Il y a une sorte de sève incroyable. Par exemple, il raconte, je sais plus très bien d'où, comment on peut dire pauvre en yiddish de 40 façons possibles. Alors, il y a un certain nombre de métaphores incroyables, un crève-la-faim, gardien de ses propres besoins, un conte aux pieds nus, un homme à la tête de chou. Enfin, voilà. Il y a 40 façons possibles de dire ça, alors qu'en anglais, dit-il, il y en a 3. Pourquoi se priver d'un bon, mais en même temps, et c'est ce qui est fascinant chez Singer, quand il arrive à Ellis Island, en 35, il a pour tout bagage 2 valises, un manuscrit vaguement dedans et personne ne l'attend et personne n'est, parce qu'à l'époque le Singer c'est son frère, et puis une langue qui est mourante. Et pourtant, il veut devenir un grand écrivain universel. Alors, comment faire? Voilà, c'est il est devant ce dilemme-là. Comment faire pour à la fois ne pas trahir mes racines et puis sortir de cet enfermement linguistique dans lequel le nombre de locuteurs décroît de jour en jour. Alors, vous l'avez dit, la première fois où il passe vraiment dans le monde anglophone, c'est en 53 avec Gimbal le Naïf. Mais c'est tellement bien traduit par Bello qu'il se dit, oh là là, mais si ça continue comme ça, on va dire c'est le talent de Bello et moi, ça va complètement m'échapper. Donc il reprend la chose en main et comment fait-il ? Il s'était aperçu, il avait dit dans sa jeunesse, je veux être le serviteur de deux idoles, les femmes et la littérature. Et coup de génie, c'est là, autour de cette question de la traduction, qui va justement réunir les femmes et la littérature. Alors comment ? Eh bien, il reprend les textes en yiddish qui ont paru dans le Jewish Daily Forward, pour la plupart, en feuilleton. Et il est installé chez lui avec ses traducteurs, qui en général sont des traductrices, et à qui il lit à haute voix le texte d'origine. Et ensuite, il se traduit lui-même en anglais. Mais il se traduit d'une façon parfois un petit peu imprécise ou tâtonnante. Et elles, qui sont de langue maternelle anglaise, l'aident à mettre au point ça. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ce passage d'une langue à l'autre, c'est que, ce faisant, il va modifier pas mal le texte d'origine. Et pas seulement modifier pour l'améliorer, mais le modifier réellement et parfois profondément, au sens où il va changer des chapitres, des personnages, des fins. Pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il est très conscient du fait qu'en yiddish, l'œuvre est très ancré dans une culture et donc codé et donc inaccessible au fond à un lecteur lambda du Milwaukee ou de Californie. Et il la rend d'une certaine façon plus accessible aux non-juifs. Alors, pour les uns, c'est une trahison insupportable. Pour les autres, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en littérature qui consiste à élaborer d'une part une œuvre en yiddish, d'autre part une œuvre en anglais. Autrement dit, deux corpus d'œuvres dans deux langues différentes pour deux publics différents. Et ça, c'est très intéressant parce que, juste un dernier mot, si vous me permettez, il aurait pu changer de langue. À mon avis, il aurait vraiment pu changer de langue. En arrivant aux États-Unis, il apprend l'anglais à fond, de A à Z. Il se fait des petites fiches, il travaille comme un fou, etc. Ce que ne font pas toujours tous les émigrés. Et donc, en dépit de son gros accent yiddish qu'on entend sur les films, il connaît très bien l'anglais. Il aurait pu, comme Brad, comme Nabokov, etc. Il ne l'a pas fait. Il a été fidèle à sa langue d'origine qu'il a d'une certaine façon sanctuarisée.
Oui, mais peut-être que s'il ne l'a pas fait, c'est aussi parce qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il y a une chose, c'est une chose de connaître une langue étrangère parfaitement, là aussi, et de pouvoir écrire dans cette langue-là. Et peut-être que écrire en yiddish, c'était aussi sa seule façon de rester vivant, c'est-à-dire de garder d'abord vivant en lui ce dont il n'avait pas envie de se défaire. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le yiddish, c'est une langue d'exil. Donc il écrit dans une langue d'exil. Et moi, là, je pense quand même à toutes ces figures d'écrivains, de philosophes, d'intellectuels qui sont partis aux États-Unis dans les années 30 pour quitter l'Allemagne nazie et qui ont continué d'écrire dans leur langue parce que, dans le fond, c'était la seule chose qui pouvait encore les rattacher à ce qu'ils avaient dû brutalement et violemment quitter.
Reste qu'il y a un mystère qu'on ne va pas complètement pouvoir élucider, une ambiguïté en tout cas. C'est ce passage à l'anglais, cette volonté que l'œuvre soit traduite à partir de l'anglais. On peut dire en effet que les traducteurs du yiddish, leur nombre ne cesse de se réduire, ce qui fait que Singer ne leur fait pas nécessairement confiance. Et puis, mais il y a cette idée y a-t-il déperdition d'une œuvre à l'autre, ou y a-t-il changement en vue du mieux? Son fils, qui l'a traduit en hébreu, dit que c'est une amélioration, car il écrivait pour un journal, et quelquefois il tirait à la ligne, et il a donc donné plus d'exigence à la traduction, et parfois même, par exemple, pour la famille Moscat, le dernier chapitre, je crois, se passe en Israël, c'est un chapitre, semble-t-il, assez optimiste, qu'il a supprimé dans la version anglaise, ce qui fait qu'on se termine, par cet échange entre Herz Yanovar et Asa Eshel, le héros, le Messie va bientôt arriver. Que voulez-vous dire? La mort et le Messie, voilà la vérité. Là, il n'y a pas de trahison. C'est la volonté, au contraire, de radicaliser encore le message.
Ça me fait penser à ces œuvres qui ont un double régime, ésotérique et exotérique.
Oui,
c'est-à-dire comme s'il y avait une double vocation de l'écriture. C'est-à-dire, il y avait quand même, si elle avait une double adresse, et il fallait distinguer, dans le fond. Et Singer avait voulu distinguer. Donc, il y a son œuvre à vocation universelle pour tous, et c'est la vocation qu'il voulait pour son écriture. Et puis, une œuvre dont il aura, qui sera restée cryptée. Voilà, qui est dans lequel il aura délibérément souhaité qu'elle reste pour ceux dans le fond qui peuvent la comprendre dans cette langue-là, ce qui est aussi une revanche sur l'histoire. De dire, ben, il y a une partie de mon œuvre, de toute façon, voilà, on a détruit ma langue, mais il y a une partie de mon œuvre qui ne sera pas accessible autrement que dans cette langue-là.
Un dernier mot maintenant sur l'entreprise biographique, puisque vous avez écrit une très passionnante biographie de Singer, vous vous êtes heurté, Florence Noiville, à ses propres avertissements. Si Gogol avait habité en face de chez moi, je ne serais pas allé le voir. Pour aimer un plat, on n'a pas besoin de connaître le cuisinier. Au contraire, d'ailleurs, disait-il. Une femme lui dit « Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance ». Et il lui dit « Ben non, maintenant vous connaissez le cuisinier, vous n'aimerez plus la cuisine ». Bref, et nous voici dépositaire par vos soins d'un savoir dont nous ne savons que faire. Écrivain humain, écrivain moral, et tout d'un coup nous apprenons qu'il y avait chez lui une avarice vertigineuse. Son fils, qu'il avait abandonné en Pologne avec sa mère, revient le voir à l'âge de 30 ans, je crois, il habite Tel Aviv, il le reçoit chez lui, il lui donne $1 par jour. Alors que faire de ce savoir ? En avons-nous vraiment besoin, Florence Noiville?
D'abord, ça m'amusait de transgresser un peu.
Bien sûr.
Voilà. Lui-même ayant passé sa vie, comme on vient de le rappeler, à transgresser toutes les lois. Donc, je pense pas qu'il puisse m'en vouloir vraiment, hein, même si son e-book est dans ce studio de radio. Voilà. D'autre part, que faire de tout ce savoir? Le savoir qui consiste à dire qu'il y a des parts d'ombre chez tout être humain, y compris chez Singer, y compris chez tous les grands créateurs. Mais cette complexité-là, la littérature est là pour nous la rappeler à chaque instant. Et c'est pas vous, Alain Finkielkraut, que ça pourra surprendre.
Non, bien sûr.
Bon, alors après, quelle était au fond la vraie question?
La vraie question, c'est quand Singer dit « l'œuvre seule importe oui. », je me demande s'il a raison, parce que je suis moi-même avide de biographie.
Il n'est pas alors, seul moi, à dire ça, par exemple. Kundera dit ça.
Oui, moi, je voudrais...
Sioran dit ça.
Non, voilà, je voudrais dire quelque chose. Enfin, il y a plusieurs questions dans votre question, mais la première, celle de dire pourquoi écrire une biographie alors que Singer a dit « je ne veux pas de biographie, je n'aime pas les biographies, etc. » Mais il ne faut jamais, à mon avis, faire trop confiance aux écrivains quand ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, ou qu'on écrive sur eux, ou qu'on raconte leur vie, ou qu'on raconte leur histoire. C'est toujours en réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambivalent. Singer avait quand même aussi envie qu'on parle de lui et qu'on dise qui il était. Donc on ne peut jamais accorder trop de crédit à ce qu'un écrivain dit de la réception qu'il souhaite pour son œuvre, ou de la non-réception qu'il souhaite.
Vous avez cette phrase de...
Et puis la deuxième chose, alors sur cette histoire de oui, est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Je pense qu'il y a une... Je pense que les écrivains construisent aussi leur propre mythologie. Et donc, à un moment où donne des signes pour ça. Donc un écrivain, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une mythologie qui devient... Et donc cette mythologie suppose qu'effectivement on puisse la faire vivre, et donc raconter la vie des écrivains, raconter des choses sur eux qui ne s'attendraient pas forcément à ce qu'on raconte, c'est faire vivre cette mythologie. Ça fait partie de la vie
et
de la littérature.
Et c'est quelquefois aussi détruire les mythes.
Et quelquefois ça détruit les mythes, voilà. Moi, c'est un peu comme ça, je trouve que c'est des panthéons. Et donc, dans ces panthéons-là, eh bien, il y a des...
En l'occurrence, je trouve qu'il s'agit d'une quête de vérité qui ne détruit rien.
Non, c'est vrai. En tout cas, dans votre œuvre, absolument.
Même si les aspects de noirceur existent, eh bien, comment pourraient-ils ne pas exister? Ils viennent ajouter à la complexité, à l'humanité de l'homme, dont la vie est un roman de Singer, au fond. Il a fait de sa vie un véritable roman. Voilà. Et cette biographie, me semble-t-il, enfin, je dis ça avec la modestie qui s'impose, vient aussi éclairer l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'on le retrouve partout. Il disait, au fond, je connais pas d'écrivain sérieux qui ne se mette pas lui-même en scène. Et il est en scène un petit peu partout dans tous les romans et dans toutes les nouvelles, et on le retrouve avec d'autant plus de plaisir. Donc si cette biographie peut contribuer à le faire lire aujourd'hui ou relire, de même que ce cahier de Lerne, alors le tour est joué, parce que je trouve qu'il est singulièrement sous-estimé et oublié en France, alors que ça n'est pas le cas à Stockholm, par exemple. On me disait, toutes les familles ont un Singer sur leur étagère. Au Japon, aux États-Unis, un fan club incroyable.
Oui, c'est devenu un écrivain universel, mais on peut en finir avec cette question de l'argent par un trait d'humour relevé par Agatha Tuschinska dans le livre qu'elle a consacré à Singer. « Je voudrais bien donner un pourboire plus important », a-t-il dit un jour au serveur d'un restaurant, « mais mon cœur ne me le permet pas ». Voilà qui est quand même assez amusant. Et puis aussi un autre trait d'humour que j'aime beaucoup parce qu'il relève de l'autodérision, sur la langue elle-même. Il part du yiddish, il dit c'est la langue de l'humour, c'est la langue des blagues. Et il en donne cet exemple merveilleux, un petit garçon au Cheder, l'école élémentaire juive, demande à son maître, « Maître, pourquoi Caïn a-t-il tué Abel ?» Et le maître répond, « Parce que Abel racontait des blagues que tout le monde connaît. » Voilà qui est merveilleux. En tout cas, j'espère que cette émission aura incité à lire Singer. Donc, je rappelle le numéro des Cahiers de Lerne, consacré à Singer. Et puis, votre biographie, Florence Noiville, Isaac Bashevis Singer, aux éditions Stock, où on trouve la majeure partie des romans de Singer, ceux dont nous avons parlé, notamment Ennemi. Et puis, le dernier roman, le roman que vous avez publié chez Stock également, L'Attachement. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Fabien Capel. Dans un instant, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.